Réjouissez-vous, sabre clair, c'est lundi et c'est le front du lundi.
(0561 53 36 95). Ma voix est un peu aiguë, mais c'est vachement sympa. Vous êtes donc toujours sur le 92.2 MHz à l'écoute de Canal Sud. Rico est donc à la technique. On le reconnaît, tes petits doigts boudinés qui ont du mal à s'accrocher au potard. Et on sent que ça s'est ankylosé un
c'est
petit
pas facile,
peu.
C'est pas facile, j'arrive pas à toucher. J'ai grossi, j'arrive pas
alors,
à toucher.
Alors, Nounou, tu es content d'être avec nous?
J'arrive pas à toucher la table.
Il est où le chat?
Il est où? Il est là. Il est là, le chat.
Aujourd'hui, un front du lundi qui va passer les Pyrénées et ensuite on va faire le grand tour et on va repartir de l'autre côté de l'Europe pour les grands froids finlandais. En tout cas, pour l'instant, on commence avec l'autre côté des Pyrénées. La femme est toujours victime. En novembre dernier, une députée du Parti Populaire avait déclenché une polémique en Espagne en ramenant les chiffres sur les nombres différents d'avortements selon le niveau d'études. Le chiffre servait à pointer que les classes défavorisées seraient plus enclines à l'avortement. Le raisonnement est alors le suivant, le peu d'études représente l'ignorance. Hein, si on n'a pas fait d'études, c'est parce qu'on est un peu con. Donc, les femmes des classes populaires sont un peu connes. Et du coup, elles font pas gaffe. Et elles avortent n'importe quand et n'importe comment. Et c'est mal. C'est très mal. Il faut les protéger. La députée continue sur la même veine. Les femmes avortent, obligées par peur de perdre leur emploi ou par manque de soutien de leurs proches. La femme est toujours victime, semblait lui répondre le 20 décembre dernier le ministre de la Justice himself, toujours en Espagne. Il répète deux fois cette petite phrase pour annoncer donc une nouvelle loi. Et c'est pour nous convaincre que c'est bien pour la femme et non contre les femmes que cette nouvelle loi est présentée. Mon œil, mon cul.
Tu as vu le nom de la loi? La loi de la protection
J'y viens, mon cher. Tout cela est très bien réglé. Donc mon œil, des fois je me demande si ceux qui veulent défendre la femme ne sont pas toujours contre les femmes. Bref, ce qui se passe de l'autre côté des Pyrénées semble être un peu plus qu'un retour en arrière. Les faits. Pour remplacer la loi de santé sexuelle et de la reproduction et d'interruption volontaire de grossesse, le gouvernement propose une nouvelle loi qui s'appelle donc « Loi organique de protection de la vie de l'embryon et des droits de la femme enceinte ». On dirait un tract de SOS tout petit. Donc, et direct, l'esprit de la loi, c'est simple. « No cabe depender de la exclusiva voluntad de la mujer embarazada ». Il n'est pas question de dépendre exclusivement de la volonté de la femme enceinte. Non mais quand même.
J'adore le terme de enceinte embarrassada.
C'est en quelques mots l'esprit de la loi qui, d'une part, reconnaît des droits à l'avorton et d'autre part, renvoie les femmes à un statut d'éternelle victime et de mineure perpétuelle. Le projet de loi commence par affirmer que l'embryon est une personne à naître, dont les droits, comme personne, sont protégés constitutionnellement. Le machin est d'ailleurs nommé le non-né. Hein, le non-né. À partir de quoi il devient impossible, à moins de commettre un meurtre, et ça c'est mal, de se débarrasser du produit d'un rapport sexuel, sauf dans un tout petit nombre de cas. Concrètement, il va être très 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 difficile d'avorter, mais ce ne sera pas pour autant pénalisé pour les femmes. Sympa. Et oui, encore une fois, dans leur grande miséricorde, les gouvernants ont décidé de ne pas poursuivre pénalement les femmes qui se feraient passer le machin. Par contre, gare à la personne qui réalisera le geste médical. 1 à 3 ans de prison et interdiction d'exercice. Donc concrètement, parlons délai. Dans les 22 semaines, soit 5 mois et demi, il sera possible d'avorter si et seulement si sont constatés par deux médecins indépendants du centre pratiquant l'IVG des risques patents pour la santé physique ou psychologique de la personne enceinte. Deux médecins, c'est-à-dire un pour la femme et un pour l'avorton. Voilà. Dans les 12 semaines, soit 3 mois, dans le cas d'une agression sexuelle, c'est-à-dire que le produit de la relation sexuelle soit une relation sexuelle non consentie. Et si et seulement si celle-ci a été dénoncée en temps et en heure, parce qu'il ne faudrait pas non plus qu'après, hein, les roublardes...
Vous avez le récépissé du commissariat, c'est ça que tu dis.
C'est ça. Pour les mineurs de 16 à 18 ans, il faudra, et les personnes sous tutelle, il faudra le consentement des parents ou du tuteur. Et à défaut, en cas de, par exemple, une mineure de moins de 18 ans qui aurait été violée par son père et que peut-être il serait inconvenant de demander l'autorisation au père pour l'avortement de son petit-fils qui est aussi son fils ou sa fille, l'intervention d'un juge. Tout ça en 3 mois. Attention, top délai, top chrono, c'est parti. Donc voilà en gros ce qui se prépare et doit encore transiter par le circuit parlementaire. Donc ce n'est pas encore fait, il reste encore à faire. Alors, cette attaque claire envers les droits des femmes à disposer de leur corps en Espagne, comment ça nous concerne, nous, qui vivons dans les pays des droits de l'homme et de sa femme? Alors, pour en parler directement avec nous, on a Sigrid Champeau du planning familial de Toulouse, donc au front sur cette question-là, et clairement, comment ça se passe? Parce que ouais. Bon, voilà, on parle des délais, c'est un peu flou, tout ça.
Le planning est monté de suite au créneau là-dessus, ce qui paraît normal aussi, quoi.
Ouais, alors du coup, le planning qui, quand même, depuis 56, s'inscrit, enfin, du coup, il existe parce qu'il s'est inscrit dans la lutte pour l'accès à la contraception et à l'IVG. Donc déjà, historiquement, oui. Enfin, et puis après, de par ses missions, dans la mesure où nous, on accompagne les femmes vers les démarches pour l'IVG, c'est-à-dire que quand elles ont besoin de savoir, parce que bon, en France, c'est quand même un peu le parcours de la combattante, quoi. Donc savoir comment on s'y prend, par où. Donc là, les femmes viennent nous rencontrer par rapport à ça. Et le lien avec l'Espagne, c'est par rapport aux IVG hors délai.
C'est quoi un IVG hors délai?
Ouais, voilà. Alors, sachant qu'en France, donc, il y a des délais qui sont de 14 semaines d'aménorrhée, donc 12 semaines de grossesse, très facilement, parce que vous le disiez tout à l'heure, c'est assez court finalement, le temps de s'en apercevoir. Donc nous, en tous les cas, sur Toulouse, au planning, on reçoit à peu près une cinquantaine de femmes par an qui ont besoin de partir à l'étranger pour pouvoir accéder à l'IVG parce qu'elles ne sont plus dans les délais pour pouvoir avoir une IVG en France. Donc c'est ça un peu le lien que nous on peut avoir et que voilà, l'Espagne, étant donné que c'est quand même ce qu'il y a de plus près par rapport à Toulouse. Après voilà, du coup au niveau national on estime à 5000 femmes par an qui partent à l'étranger.
D'accord.
Donc pas que l'Espagne du coup, il y a l'Angleterre et les Pays-Bas.
D'accord. Mais toutes les filles du sud, au sud de la Loire, elles sont été automatiquement envoyées, enfin automatiquement entre guillemets, vers l'Espagne parce que c'est le seul pays qui permettait d'aller, de pouvoir voilà, faire un avortement un petit peu plus tard qu'en France ou j'imagine qu'au Portugal ou qu'en Italie, etc. Enfin, c'était la seule voie de
ouais, disons, recours, ben, voilà, disons que c'est là, il faut essayer de faciliter après l'accès à cette IVG-là qui est déjà compliqué puisque financièrement il n'y a plus de prise en charge, donc ça demande quand même un sacré sacrifice financier. Donc pour faciliter au mieux l'accès, c'est de pouvoir les faire partir sur des endroits qui sont plus proches de chez elles. Donc après, pour d'autres choix, il y en a qui partent du coup aux Pays-Bas, mais c'est parce qu'elles vont connaître des gens là-bas. Ou voilà, mais c'est, sinon, la majorité des femmes dans le sud partent bientôt en Espagne.
D'accord. Alors du coup, cette sorte de délai pour nous qui ne sommes pas équipés et qui du coup n'avons pas eu cette expérience folle de se découvrir enceinte, parce qu'en même temps, on se dit 3 mois, bon, bah 3 mois, on a le temps de se retourner, quoi. Je veux dire, c'est quand même étrange, mais peut-être ça prend du temps déjà de se rendre compte qu'on est enceinte. Des fois, on se dit qu'on n'est pas enceinte, et après, il y a toute une série de démarches en France.
Ouais. Bah, en fait, il y a déjà, bon, pour savoir comment ça se fait qu'il y a des femmes qui ne s'aperçoivent pas qu'elles sont enceintes, parce qu'il y a 10 000 façons, et ça va très vite, 3 mois en plus. Donc, il y a des femmes qui vont continuer à avoir leurs règles pendant le début de grossesse, par exemple, ou alors du moins qui vont assimiler des saignements à des règles. Il y a des femmes, par exemple, qui vont avoir... ça a été, nous, le cas pour des personnes qui sont venues au planning, mais qui se font poser un implant contraceptif, mais à qui on ne dit pas que pendant 7 jours, c'est pas mal de continuer à se protéger. Du coup, la femme, pour elle est contraceptée, donc elle va avoir un rapport sexuel. Et puis, sauf que, du coup, les effets secondaires de l'implant sont les mêmes que la grossesse. Donc, pour elle, voilà, elle met beaucoup de temps avant de s'apercevoir qu'éventuellement, il y a une grossesse. Après, il y a aussi, parce qu'il y a, par rapport à des violences conjugales, donc il y a effectivement des femmes qui vont choisir au départ de garder une grossesse, elles vont investir leur grossesse, mais qui subissent des violences et qui décident finalement de ne pas pouvoir garder. Enfin, je veux dire, il y a 10 000 raisons pour très vite sortir des délais. Et puis, je veux dire, il y a des régions où il ne faut pas être enceinte l'été. par exemple, non plus. Parce pourquoi qu'avant de dégoter un premier rendez-vous, pour peu qu'on soit un peu limite dans les délais, c'est mort, quoi.
Parce que du coup, c'est comme un rendez-vous médical. C'est-à-dire, déjà, ça prend du temps. Tout le monde a pris, par contre, là, du coup, un rendez-vous médical. Ça prend du temps. Ah, ou non, est-ce qu'il y a des procédures accélérées quand on
Exceptionnellement aussi. Normalement, en France, quand même, on essaye de faire en sorte que les femmes ne se retrouvent pas hors délai, même si c'est vraiment limite. Alors après, ça dépend des périodes de l'année. Voilà, quand je parlais de l'été, c'est que sur Marseille ou l'Île-de-France, par exemple, ou même là, cet été, ça s'est passé, même à Toulouse, hein, c'est compliqué. Donc il y a quand même au minimum 4 rendez-vous pour une IVG, alors, enfin, qui ne sont pas du tout concentrés. Hein, c'est plus la semaine de réflexion obligatoire. Donc ça commence par un premier rendez-vous chez un médecin. Il y a la semaine de réflexion. Ensuite, là, il va falloir avoir 3 rendez-vous qui vont être espacés et la date de l'IVG. Enfin, je veux dire, c'est un minimum de 3 semaines pour avoir accès à l'IVG en France.
Ah, d'accord, ouais. Donc il faut quand même s'en apercevoir au bout de 2 mois. Quoi. Ouais. Sinon, c'est direction l'Espagne. Quoi. Enfin, ouais, ouais. C'était direction l'Espagne. Mmh. C'est ça.
Ça va vite.
3 semaines, 1 mois, le temps d'arriver. Mmh. Ouais, d'accord. Déjà, c'était pas simple quoi, déjà au départ. Quoi.
Enfin, non, c'est pas simple. Non, c'est pas simple du tout.
Donc moi j'ai l'impression que c'est le premier truc, c'est-à-dire que là c'est une voie, un échappatoire, en tout cas une possibilité de conserver la maîtrise de sa reproduction pour une femme qui risque de se fermer si cette loi elle passe. Ça c'est très concrètement. Est-ce que tu sais si pour autant les cliniques elles pourraient continuer à le faire?
Illégalement, c'est ça?
Non, pas illégalement, mais est-ce que du coup ça impacte aussi les étrangères? Est-ce que ça c'est certain? Parce qu'en même temps on a l'impression qu'il y a un truc de c'est quand même une manne financière, parce que tu disais c'était entre 750 euros et 3000 euros l'avortement, hein, qu'il faut payer, c'est pas remboursé par la sécu, hein, et cette manne financière il la coupe sans... Ils s'en foutent, quoi.
Ouais, oui. Alors, en plus, ce qui est quand même assez incroyable, c'est que c'est quand même dans des lois par rapport à l'austérité en Espagne, c'est-à-dire, ça va avec les lois anti-manif, il y a tout un tas de resserrements comme ça, mais que là, effectivement, si jamais cette loi passe, a priori, il y a quand même des cliniques, celle de Gérone, par exemple, qui travaillent quasiment exclusivement avec des étrangères, enfin, je vois pas... là, elle ferme. Alors, parce qu'en plus, alors, ce qu'il faut savoir quand même, c'est que quand les femmes partent en Espagne, on leur demande de payer en liquide aussi.
Ah ouais?
Ouais.
C'est bien ça. Mmh. En dollars ou on peut payer en euros?
En dollars. Ouais, mais est-ce que t'as l'impression, comme on peut le lire à droite à gauche, que c'est... on en est même sûr pour l'Espagne, mais est-ce que ce côté justement plus idéologique que pratique, puisque je crois que selon les chiffres des Espagnols eux-mêmes, c'est que le nombre d'IVG pratiqués en Espagne était en baisse en 2012, donc c'est pas parce qu'on peut en faire qu'automatiquement ça faisait exploser tous les chiffres, donc c'était plutôt d'ordre idéologique. Et est-ce que tu as l'impression, parce que d'ordre idéologique, enfin on retrouve les arguments de tous ces résidus là de bénitier, de SOS tout petit et compagnie, quoi. Est-ce que tu penses que ce genre de choses peut un jour ou l'autre venir en France? Enfin, on a tous en tête les manifs, le mariage pour tous, enfin tout ce genre de personnages qui sont droit dans leurs bottes et tout à fait pour ce qui se passe aujourd'hui en Espagne. Est-ce que tu crois qu'un jour ou l'autre ça peut ça peut arriver, ou est-ce que tu sens qu'il y a peut-être des prémices, des signes qui font que on n'est pas tant mal abri que ça non plus en France par rapport à cette histoire d'avortement, même si on n'est que sur 12 ou 14 semaines aujourd'hui?
Idéologiquement, en France, de toute façon, oui, comme tu parles de SOS tout petit, eux, ils n'ont jamais lâché l'affaire. Hein. Donc ils sont là. Après, même la loi, enfin, je veux dire, on est encore sur la loi de 1920, hein, c'est un aménagement de la loi en France, hein, c'est pas non plus...
1920, d'accord.
C'est une dépénalisation, justement, de l'IVG jusqu'à 12 semaines de grossesse. Mais la loi d'interdiction d'IVG existe encore. Donc, en fait, ça serait assez simple si un jour on voulait effectivement interdire, il suffirait de réduire... Enfin, là, les délais ont été rallongés, donc du coup, c'est un réaménagement de la loi, mais ça serait aussi simple de le faire dans l'autre sens.
D'accord.
Alors, après... Du coup, idéologiquement, j'ai pas l'impression que c'est un gros impact encore en France, tous ces lobbies cathos. Mais en tous les cas, ils sont là. Donc, selon la place qu'ils pourraient prendre et l'accès qu'ils pourraient avoir pour le changement de loi, peut-être. Mais en tous les cas, sur, par exemple, la restructuration des hôpitaux, Là, les premiers centres qui ont sauté, c'était les centres d'orthogénie, par exemple, quand on restructure, voilà. Donc
l'orthogénie, c'est tout ce qui concerne l'avortement ou...
Et la contraception.
Et la contraception.
Du coup, voilà. Donc, c'est les centres IVG, où on pratique les IVG. Quand il y a une restructuration d'hôpital, c'est ça qui saute en premier. Et alors après, ça veut dire qu'il va être mis à 50 km de, voilà, de l'habitation des personnes. Et que, par exemple, quand on est une mineure dans le secret, parce qu'en France, on n'est pas obligé d'avoir l'autorisation parentale pour avorter, mais il faut être accompagné d'une personne majeure. Mais s'il faut faire 50 km pour justement ces fameux 4 rendez-vous, ça commence à être compliqué aussi. Donc c'est plutôt l'accès qui se complique. C'est pas valorisé financièrement, donc ça intéresse pas trop les médecins de se former non plus. Donc il y a de moins en moins de médecins qui pratiquent les IVG. Donc voilà, d'où les délais aussi très longs pour avoir des rendez-vous. Enfin, je veux dire, donc l'accès, il risque de se compliquer, même si idéologiquement, voilà, bon, les autres, ils s'agitent, mais que ça n'a pas forcément beaucoup d'impact. Mais en tous les cas, dans l'accès, concrètement, ça se complique.
Alors, moi, sur le point idéologique, j'ai l'impression qu'il y a deux choses. Il y a un truc un peu de discours. Alors, on peut dire, bon, c'est du discours, machin, de protection. Oui. La femme, c'est-à-dire que encore une fois, on fait passer une loi contre les femmes pour protéger la femme et la femme enceinte, hein, pourquoi pas la femme plâtrée ou la femme réglée ou la femme unijambiste, mais la femme enceinte, quoi. Déjà, ça c'est comme aussi un ballon d'essai de comment faire passer des discours rétrogrades comme des discours progressistes. Avec, je citais cette députée espagnole au départ qui dit les pauvres, elles sont démunies et elles sont obligées d'avorter, quoi, parce qu'elles n'ont pas suffisamment de possibilités pour ne pas avorter. Il y a ça, et deuxièmement, alors qui est plus du côté du discours, qui est peut-être moins important, mais moi ce qui me paraît plus violent, c'est cette question de l'embryon comme personne humaine. C'est-à-dire, à un moment, cette décision, en plus, qu'on cherche à constitutionnaliser, c'est-à-dire vraiment à inscrire dans les lois profondes
Et à les porter devant le Parlement européen aussi. C'est une croisade anti-avortement dans laquelle se lancent quand même les ministres espagnols, en fait, notamment le ministre Gallardón, qui, lui, veut pas en rester simplement à la péninsule ibérique. Il a envie de porter ça sur la place publique, quoi, en disant, bon, voilà, jusqu'à maintenant, il y avait la Pologne, l'Irlande, nous, on les rejoint, bon, on sait que Malte et l'Andorre, c'est carrément interdit, mais bon, voilà, on grappille, quoi. Donc il y a quand même ce côté un petit peu de mettre cette espèce de débat tout pourri là sur la table pour essayer de grappiller et de tirer, sachant que bon, voilà, on a quand même un décalage à droite avec toutes ces politiques qui sont aujourd'hui à la tête de l'Europe, hein. C'est le genre de choses qui peut plaire, qui peut séduire et dans lequel vont s'engouffrer tout ce qui est FN, droite, social, libéral, enfin, etc. On sait très bien, quoi, que Saint-Héro, que ce genre de choses va petit à petit évoluer, quoi. Enfin, je sais pas, il me semble qu'il y a l'embryon, mais en même temps, ils sont en train effectivement d'aller assez loin et d'aller à un niveau un peu plus européen que local, quoi.
Ben oui, et pas simplement européen. C'est-à-dire que moi, ce que je veux dire, c'est que l'Argentine fait la même chose. C'est-à-dire qu'elle veut constitutionnaliser le fait que l'embryon est une personne humaine à partir du premier jour de conception. C'est-à-dire les deux cellules, là, hein, ding, ding, ding. C'est-à-dire, on n'est pas loin de consacrer le spermatozoïde et l'ovule, quoi. Donc, on a un pape argentin, hein, donc c'est pas un hasard. Et je pense que là, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de l'offensive. Et qui est vieux, il y avait un amendement, l'amendement Barreau, je crois, qui voulait faire que quand on tue une personne par accident ou pas, et qu'elle est enceinte, il y ait double meurtre. Et donc, ce qui passait derrière, ce qui peut être bon, voilà, une discussion, mais en fait, ce qui passait derrière, c'est de dire, mais donc la personne qui est dans le ventre est une personne, quoi. Pas la personne qui est dans le ventre, le truc qui est dans le ventre, là, machin, le produit là d'une relation sexuelle est une personne déjà. Que pense la personne qui porte ça n'a aucun intérêt. C'est-à-dire qu'on dit ça n'a aucun intérêt, aucun. Même dans la loi espagnole, si il faut que s'il y a des risques psychologiques ou de santé pour la femme, doivent être étudiées la possibilité de sortir l'embryon ou le fœtus, déjà, pour le faire vivre en dehors de la femme. En sachant qu'aujourd'hui, on peut faire vivre des embryons à partir de machins, quoi, à partir de 5 mois. Donc, ça veut dire, ah non, maintenant, on ne va pas vous avorter, on va vous le sortir, on va le garder au chaud et vous allez hériter de ça, quoi. Donc c'est vraiment un effet de levier énorme, cette histoire d'embryon, et en Europe, avec déjà des législations qui sont pas forcément clémentes. Alors soit il y a peu de délais, on va dire dans les endroits où c'est dépénalisé, soit je crois que c'est la Pologne ou l'Irlande qui sont très très répressifs là-dessus. C'est ça, hein,
c'est ouais, ouais, bah du coup, la Pologne, c'est juste en cas, je regarde mes notes en même temps, en cas de viol, d'inceste et de danger pour la santé de la vie et de la mère, ce qui rejoint un peu les lois en Espagne.
Ouais, ouais.
Et puis, du coup, l'Irlande, je crois que c'est un truc comme ça, mais parce que du coup, ils ont quand même été obligés de légiférer un minimum parce qu'il y a eu des drames, enfin, du coup, qui ont été portés par les médias, mais je pense qu'il y en a eu d'autres avant, hein, mais c'était en Irlande où il y a une femme qui est quand même, on lui a refusé une IVG alors qu'elle avait un fœtus de 17 semaines qui était en train de mourir à l'intérieur d'elle et elle est morte d'une septicémie. Donc là, quand même, au bout d'un moment, ils se disent, bon, allez, d'accord, enfin, je veux dire, c'est, donc ils vont vraiment attendre les cas extrêmes. Comme tu disais, pour jusqu'à voir jusqu'où, à quel moment on peut sauver ce truc en devenir, alors qu'il y a quand même déjà une personne présente qui...
Et tout ça avec quand même la grande mansuétude de l'Église catholique et donc du pape qui est super rock'n'roll, soi-disant, enfin, vu ça a été l'homme de l'année, etc. Sauf que le type n'a jamais sorti une phrase sur l'avortement. Il n'a jamais dit ce qu'il en pensait, il n'a jamais dit comment il voyait les choses, ni rien du tout. Quoi. Il a entretenu une espèce de savant brouillard, un petit peu là, bien opaque là-dessus. Et voilà, et là, comme par hasard, là, ce genre de choses se réveille et on sent toute l'ampleur quoi, de cet édifice catho, quoi, quand même, qui pousse derrière la roue, quoi. Qui pousse la roue, puisque si, quand on parle de Pologne et d'Irlande, c'est les pays les plus fervents où on trouve le plus de grenouilles de bénitier. Quoi.
De catholiques apostoliques romains.
Voilà. Ouais, sachant que l'Espagne arrive sur le même niveau. Hein,
comme
tu disais, c'est Malte et l'Andorre, où vraiment là c'est interdit complètement. Mmh. Après, il y a des aménagements voilà, qui peuvent différer un peu selon les pays, ça c'est sûr.
Donc, mais, oui, pardon.
Et du coup, juste parce que du coup, c'est intéressant, en Pologne, justement, dans le cadre juste uniquement de viol, d'inceste et de danger pour la mère et le fœtus, du coup, il y a officiellement 669 avortements en 2011, ce qui est peu, hein, quand on va en France, c'est 200 000. Hein, et par contre, du coup, officieusement, ça serait 180 000.
D'accord.
Donc la question, c'est comment font les autres ? Comment elles se débrouillent, elles, voilà. Et c'est ça un peu c'est la question qui va se poser en Espagne. Ouais, qui va avoir accès à l'IVG ? Je veux dire, bon, bah, finalement, du coup, alors là, on parle de soi-disant les personnes pauvres, celles qu'on aurait plus besoin, mais ce n'est pas elles qui vont avoir le meilleur accès. Hein. Celles qui ont de l'argent, oui, comme d'habitude, mais les autres, et qu'est-ce que ça va donner ? Enfin, je veux dire, ce n'est pas parce qu'on interdit l'IVG, forcément, que c'est... Enfin, je veux dire, l'IVG existera toujours.
Ouais. Et parce qu'en plus, il faut tordre le cou à quelque chose de la contraception à 100%, ça n'existe pas.
Non.
Ça n'existe pas, quoi, à part peut-être la sodomie, la fellation et l'abstinence, hein, qui sont trois possibilités, et l'homosexualité. Mais sinon, ça n'existe pas. Le rapport sexuel, il est procréant, je veux dire, dans 90% des cas pour les hétérosexuels.
Ouais.
Donc, la pilule, c'est pas sûr, l'implant, c'est pas sûr, la vasectomie, peut-être, c'est sûr.
Peut-être. Non, mais peut-être, oui, encore, pas les trois premiers mois, enfin voilà, et puis c'est pareil pour la contraception définitive pour les femmes, les trois premiers mois non plus, puis enfin, voilà, des fois, il se passe des choses qui font que, non, effectivement, même une ligature des trompes ou une autre méthode, là, qui est la méthode des Échour, c'est pareil, il peut toujours y avoir un échec à un moment donné, de toute façon, il n'y a aucun moyen de contraception qui est fiable à 100%, aucun.
Donc on a vraiment l'impression d'une attaque là assez forte, moi vraiment, parce que moi j'étais choqué, j'ai lu ça il y a pas longtemps en Argentine, ils sont en train de vouloir faire passer un truc qui ressemble énormément à ça, c'est-à-dire que ça, ce truc de dire à un moment, on a l'impression qu'ils ont trouvé le Graal, c'est de faire que l'embryon c'est une personne, quoi. Alors du coup tout est bloqué, quoi. À partir de là tout est bloqué et on nie complètement le fait que c'est le choix d'une personne, d'une femme, de dire ce qu'elle a dans le bide, qu'est-ce que ça va devenir ? Ça va devenir un enfant ou un résidu de rapport sexuel, voilà, quoi, point. Et je pense que c'est vraiment un truc assez dur. Et du coup, il y a des mobilisations. Alors, il y a des mobilisations un peu en Espagne autour de ça. Alors, tu disais tout à l'heure, c'est dans le cadre quand même de l'austérité. On a entendu parler de l'Espagne hein, longtemps, hein, les manifs, les indignés, etc. Et des gros problèmes liés à la crise qu'il y a en Espagne. Du coup, ils ont passé toute une série de lois ultra répressive sur la protestation. Et d'ailleurs, il y a trois camarades espagnols qui ont été arrêtés, accusés de résistance, désobéissance à la loi et d'atteinte à la personne dépositaire de l'autorité, qui sont aujourd'hui incarcérés, quoi. Et qui risquent des poursuites. C'est-à-dire qu'en plus, maintenant, s'opposer à cette loi-là, ça va pas être facile dans les faits, quoi.
Ouais, tout à fait. On avait lu.
Sachant qu'elle est même pas passée encore. Hein. Donc là, ouais. C'est. Et d'ailleurs, normalement, elle passe au Parlement le 20 janvier.
Ouais.
Donc ça arrive vite. Hein.
Ouais, ouais. Et donc mercredi, il y a une mobilisation, un appel à mobilisation à Toulouse.
Voilà. Alors voilà, je tiens à dire quand même que c'est pas le planning familial qui appelle à mobilisation, même si ils vont participer. Hein. C'est d'autres collectifs. Un collectif même informel hein, qui a décidé de féministes solidaires qui ont décidé de, donc, de faire une manifestation le mercredi 8 janvier à 12h devant le consulat d'Espagne. Donc consulat d'Espagne qui se trouve rue Sainte-Anne à côté de la préfecture, c'est ça hein,
c'est dans le quartier de l'église la belle église
Des
cathos là,
voilà. Des cathos, c'est historique en plus cette église, Saint-Étienne tu veux dire.
Saint-Étienne.
D'accord.
Oui, celle devant laquelle il y a un prier SOS tout petit.
Voilà, celle qui est austère, hein, celle qui au Moyen-Âge, les curés qui sortaient de là étaient obligés d'être protégés par l'armée parce que sinon ils se prenaient, déjà à l'époque ils se prenaient des cailloux, en fait, toutes sortes de choses, quoi. Ils étaient détestés, c'était vraiment la pire racaille de cathos était là, c'était le nid, quoi.
Donc revenons à nous. Donc c'est mercredi, c'est après-demain, c'est une manif, c'est à midi, c'est rue Sainte-Anne, c'est devant le consulat d'Espagne et c'est appelé par des féministes solidaires. Et qu'est-ce que tu peux lire un peu l'appel là?
Ouais, je peux le lire, ouais.
Ouais.
Donc le gouvernement espagnol s'apprête à faire voter une loi interdisant l'avortement, excepté en cas de viol, après dépôt de plainte ou en cas de danger pour les femmes. Ce danger doit être expertisé par deux médecins indépendants du lieu où aura lieu l'avortement. La loi actuelle requiert l'avis d'un seul médecin, qui peut être celui qui pratiquera l'avortement jusqu'à 14 semaines, et l'avis d'un psychiatre jusqu'à 22 semaines. Ceci est inacceptable. Une fois de plus, on légifère sur le ventre des femmes. Nous sommes solidaires de nos camarades espagnols, car nous pensons que les femmes doivent pouvoir disposer seules de leur corps. Nous exigeons le retrait de ce projet de loi aux conséquences désastreuses. Seules les femmes qui en auront les moyens pourront se payer un avortement. Les autres seront condamnés à avorter par leurs propres moyens ou à garder le produit d'une grossesse non désirée, avec les conséquences sanitaires, psychologiques, économiques que l'on sait. Ce projet de loi aura aussi un retentissement sur les femmes en France, car la loi ne permet d'avorter que dans un délai de 12 semaines. Les femmes ayant dépassé ce délai ne pourront plus aller avorter en Espagne, comme c'est le cas actuellement. Même si en France l'avortement est toujours autorisé, son accès est de plus en plus difficile du fait des choix politiques en matière de santé, de la complexité de la procédure et de l'existence d'un délai. Nous pensons qu'au-delà de la nécessaire solidarité avec nos camarades espagnols, nous devons nous battre ici aussi. Nous ne voulons plus que nos vies soient régies par des experts, des lois ou qui que ce soit. Nous entendons disposer de nos corps comme nous le voulons. Suite à une manifestation, trois camarades espagnols ont été arrêtés et sont accusés de résistance, désobéissance à la loi et d'atteinte à personne dépositaire de l'autorité. Nous exigeons leur libération immédiate et l'arrêt des poursuites. Donc après l'appel à rassemblement, le mercredi 8 janvier à midi, devant le consulat d'Espagne, rue Sainte-Anne.
Voilà, et donc encore une fois, hein, c'est pas une stricte affaire espagnole, en tout cas je pense, hein, parce qu'on pense tout ça là. Autour de cette table, mais c'est une affaire qui nous concerne et qui va avoir des conséquences pour les femmes, et puis c'est aussi les rapports sexuels en général. C'est à deux, donc je pense que c'est aussi un truc où on peut en tant qu'homme ouvrir sa gueule.
Bien sûr.
Voilà.
Justement, en tant qu'homme, on pourrait écouter quelqu'un qui a ouvert sa gueule. C'était Jello Biafra, accompagné de Mojo Nixon, qui avait fait un morceau justement sur l'avortement et qui s'appelait Will the Fetus Be Aborted?
Be aborted by my love, by tu sois avorté, qu'une meilleure place les attend dans le ciel, oh mon Dieu.